Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
La vague d'émigration clandestine a pris une ampleur inédite ces derniers temps. Lors de la traversée vers l'Europe, par exemple, certains migrants périssent suite au naufrage de leur embarcation des fortunes. Malgré tous ces dangers, bon nombre de jeunes Congolais, par exemple, rêvent toujours de quitter le pays de manière clandestine pour aller vivre en Europe, pour voir Mikili, aller vivre en Poutouville, hein, comme certains disent, il faut voir Poutouville avant de mourir. Hein. Alors, quelles sont les causes de la migration clandestine et quelles sont les solutions? Émeric Nga est chargé des opérations retour et réintégration à l'OIM. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi bon nombre de personnes quittent leur pays et veulent aller vivre en Europe, surtout en Europe, hein?
Oui, j'aimerais d'abord fixer quelques idées que tout individu est libre de se mouvoir, donc d'aller habiter dans un pays de son choix. Donc c'est une liberté inhérente à toute personne. Et c'est aussi une réalité reconnue dans la charte qu'on appelle le droit le document du droit de l'homme, la charte universelle des droits de l'homme en article 13, qui dit que toute personne a droit d'aller ou de revenir dans son pays. Donc quitter son pays, c'est pas un péché, pourvu que ce mouvement-là soit d'une manière régulière. Donc et le jeune congolais, parce que c'est ça votre question, qui veulent partir, quitter le pays, je sais pas, il y a plusieurs raisons qui poussent quelqu'un à quitter. Donc c'est par rapport à ses besoins.
Et généralement c'est pour des raisons économiques.
Oui, pour des besoins économiques, parce que il y a la crise économique, par exemple, il y a les niveaux d'enseignement. Ou les soucis d'aller étudier dans de bonnes universités qui poussent beaucoup à chercher à aller ailleurs. Et parfois aussi, ce sont des problèmes de soins de santé, des gens qui estiment qu'au pays, je n'aurai pas de bons soins, donc je préfère aller ailleurs. Donc il y a plusieurs raisons qui poussent des gens à quitter leur pays d'origine pour aller en Europe, par exemple, ou dans d'autres pays où les choses sont peut-être plus développées que dans son pays.
Alors, mais généralement, bon nombre de personnes les font de manière clandestine. Ils font l'immigration clandestine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus qu'est-ce qui se passe? Comment ils procèdent généralement pour partir?
Oui, j'ai dit, je crois que vous nous avez déjà donné l'occasion d'expliquer plusieurs concepts, notamment la migration irrégulière. Et cela part du fait que dans beaucoup de pays gèrent le flux migratoire, donc le nombre d'arrivées dans leur pays. Et cela part du principe de gestion d'équilibre. Donc, sur le plan économique, sur le plan même de sécurité, il y a beaucoup de pays qui essayent de gérer le flux migratoire pour que ça ne puisse pas déstabiliser l'équilibre qu'ils veulent. Alors, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de conditions qui sont posées pour de nouvelles arrivées. Donc, quelqu'un qui veut, je prends juste l'exemple du Congo-Brazzaville ici, qui a un nombre d'habitants, on parle de 6 millions, par exemple. Prenons 6 millions d'habitants. Et Kinshasa qui a plus de 10 millions d'habitants. Et si Congo-Brazzaville accepte tout le monde, et qu'on vide la moitié de Kinshasa pour aller au Congo-Brazzaville, il y aura un problème de déséquilibre sur le plan social, sur le plan économique. Et le Congo-Brazzaville a tout intérêt de gérer les flux migratoires. Donc de poser certaines conditions à des personnes qui vont vouloir aller sur son territoire. C'est comme ça que obtenir un visa, le droit d'entrer dans un pays étranger devient difficile. Et que beaucoup préfère aller d'une manière irrégulière.
Donc c'est à cause de cela que les gens préfèrent aller de manière irrégulière.
Voilà, parce que ils n'ont pas obtenu ou ils ne pourront pas obtenir parce qu'ils ne remplissent pas les critères
pour obtenir le visa.
Pour obtenir le visa, et il y a des gens qui vont chercher des faussaires pour obtenir de faux documents pour voyager et pour peut-être aussi utiliser le mauvais canot pour arriver dans des pays de destination.
Il semble que certains se font tromper aussi par les réseaux des passeurs, hein, ou les coopérants, tout ça, les Ngoulou. Vous avez appris cette histoire des Ngoulou chez nous. Il y a un groupe de gens qui arnaquent, qui prennent de l'argent, beaucoup d'argent, en promettant de vous aider à arriver en Europe en peu de temps.
Oui, nous avons même en 2010, 2011, organisé même une campagne avec l'appui de l'ambassade de Belgique, où le thème de la campagne, c'était Keba Nabanguliste, donc Keba à l'opération Ngoulou. C'est des passeurs qui trompent pour la plupart des gens qui ne sont pas très avertis et qui les font miroiter, qu'ils vont leur donner des bons documents pour voyager, aller en Belgique principalement ou en Europe, alors que ces gens-là gaspillent beaucoup d'argent pour rien. Parfois, ils ne quittent même pas Kinshasa ou la RDC parce que tout l'argent est pris par de faussaires qui fouillent. Voilà, il y a beaucoup de phénomènes.
Et comment est-ce que les faussaires arrivent à avoir tout cet argent?
Oui, d'abord c'est notre têtuesse. Donc on s'entête, on refuse la réalité et même nous qui facilitons la demande de visa pour le Canada, nous avons un centre à notre bureau, mais il y a des gens qui préfèrent utiliser les services de passeurs ou de faussaires. Il y a des gens qui préfèrent se confier à quelqu'un qui n'est pas de l'OIM ni de l'ambassade du Canada pour demander des informations ou parfois se faire aider pour remplir son dossier. Et c'est en ce moment-là que quelqu'un va se faire extorquer beaucoup d'argent que il ne pouvait dépenser officiellement. Et il y a beaucoup de pays ici pour aller, le visa coûte moins de $100. Mais il y a quelqu'un qui va vous prendre 3 000 €, 3 000 $, 5 000 $ pour l'obtention du visa, hormis l'argent du ticket. Donc vous voyez que c'est parfois un problème d'information. Même si on vous dit il faut aller sur place pour avoir les informations requises, mais il y en a qui n'osent pas.
Voilà, il y a certains qui n'osent pas. Et d'autres, et ces Ngoulistes, généralement, il semble qu'on les retrouve, ça peut être des musiciens, des pasteurs, ils sont dans plusieurs domaines de la vie sociale.
Et ils sont dans toutes les classes sociales, donc ça peut être aussi des journalistes qui vont pour des recyclages et qui aussi embarquent les autres journalistes qui ne sont pas mieux renseignés. Peut-être qu'il n'a reçu qu'une invitation pour lui-même. Il va polycopier l'informatique aidant. Il va changer de nom. Il va faire croire à ses confrères qu'il y a une invitation pour 5-10 personnes. Et tout ce monde-là va se ruer pour donner l'argent. Pas aujourd'hui, il n'est pas faussaire, il n'est pas passeur, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, des organisateurs de festivals, de pasteurs qui embrigadent beaucoup de gens pour aller dans des retraites ou de campagnes d'évangélisation. Il y a des musiciens qui, il y a eu un moment,
des concerts, hein.
Voilà, il y a eu un moment où des concerts faisaient les beaux temps en Europe. Un groupe pouvait aller avec plus de 200 personnes. Et au retour, il y avait qu'une dizaine qui revenait. Donc voilà, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de réseaux de passeurs. Et que quand on a essayé de chercher à voir un peu plus sur ces dossiers-là, on trouve qu'il y avait beaucoup de faux musiciens. Et c'est ce qui fait qu'on essaie de durcir les conditions d'obtention de visa, même pour les groupes qui sont reconnus. Mais on doit chercher dans leur rang, est-ce que tel est musicien depuis combien d'années, qu'est-ce qu'il fait exactement?
On doit le prouver.
Voilà, on doit le prouver. Il faut avoir des cartes d'artistes. Et aussi, il y a beaucoup d'ambassades qui travaillent avec des agences, avec de gens de contact, et qui peuvent les renseigner sur l'identité de tel musicien ou tel autre. Depuis quand il est dans tel groupe? Est-ce que réellement c'est un musicien ou c'est juste quelqu'un qu'on a pris la veille pour lui montrer comment danser, exhiber quelques pas de danse.
Quelques pas de danse.
Et le lendemain, il se met dans la délégation pour ne plus revenir au pays.
Bien, Deo Gracias nous appelle du Maniema. On va l'accueillir dans quelques instants. Vous voulez également participer à cette émission, appelez au 081 890 63 94.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19 heures, bienvenue dans Capissoir.
Immigration clandestine à cause des solutions. Deo Gracias, vous êtes au Maniema, bonjour.
Et bonjour, je suis à Kayou dans la province du Maniema.
Vous êtes à Kayou, quelle est votre question?
Moi, ma question que je veux savoir, ce n'est pas vraiment une question comme telle, c'est peut-être une suggestion. J'ai remarqué que la cause principale de la migration clandestine serait dû peut-être au manque d'emploi dans notre pays. Vous conviendrez avec moi que c'est les jeunes garçons, les jeunes qui viennent des universités, manquent d'emploi dans notre pays. Voilà pourquoi. Et pensent peut-être à aller à l'extérieur de notre pays pour aller chercher l'emploi. Je prends par exemple les pays comme le Mozambique, un pays qui est moins riche que le nôtre, un pays très pauvre. Mais lors d'une émission de la radio Capi, du Congrès des étrangers, j'avais suivi quelqu'un qui travaille là. C'est un enseignant comme moi, mais qui vous touche $500. Et là, la scolarité, il a dit que l'école secondaire, on paye $10 pour une année scolaire. Et encore, les soins sont gratuits. Donc ces réalités-là peuvent attirer la plupart des Congolais pour aller à l'étranger, craignant le manque d'emploi ici et les coûts de vie aussi.
D'accord, merci.
Voilà un peu
merci, Deo Gracias.
Voilà.
Ok. Jean-Pierre Benanga, depuis Isangi, bonjour. Jean-Pierre.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Oui. Oui, moi, je veux seulement vous dire que en Afrique, c'est le problème de la pauvreté qui amène la population à faire le déplacement clandestin, par exemple, l'immigration clandestine. Mais le problème est surtout pour les emplois. Nous manquons totalement des emplois. Par exemple, chez nous au Congo, il n'y a pas de société. Par exemple, dans notre province de la Tchopo ici, dans notre territoire d'Isangi, nous avons peut-être que deux petites sociétés, par exemple Imbolo, ainsi de suite, qui n'engagent que moins de 200 personnes. Alors, il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont étudié, ils ont des expériences, ils ont des techniques à faire, mais ils ne trouvent pas d'emploi. Alors, la pauvreté a englouti la population, il n'a pas de moyens pour aller dans un ministère pour chercher les documents et légaux et pour aller en Europe ou dans d'autres pays.
D'accord.
C'est là qu'ils soutiennent faire l'immigration et frauder par-ci, par-là pour entrer dans un pays étranger, par exemple en Europe ou dans d'autres pays.
D'accord.
Vraiment, nous demandons à nos gouvernants de chercher des moyens de créer des emplois. Les sociétés, pour que les intellectuels, la population puissent se réjouir, puissent trouver des emplois. La pauvreté nous engloutit.
D'accord,
je suis,
merci.
Je suis un formateur des droits de l'homme.
Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre,
mais,
oui. On a compris votre préoccupation, merci. Émeric Yanga, vous avez suivi. Le premier a parlé du manque d'emploi. Lui aussi, il revient sur ça, le manque d'emploi, la pauvreté. Voilà, ce qui pousse aux gens à recourir à l'immigration clandestine.
Oui, Jody, je l'ai dit tout à l'heure que c'est le goût ou les besoins de beaucoup plus de survie.
Du bien-être.
Du bien-être que les gens cherchent à aller ailleurs, où ils pensent que là c'est mieux. Et moi j'ai toujours dit, bon, j'ai toujours essayé de faire réfléchir les gens. Prenons le cas ou l'exemple des familles. Nous sommes de familles voisines. Chez moi, j'ai des problèmes, j'arrive difficile à louer le début du mois. Est-ce que je dois migrer avec toute ma famille pour venir m'installer chez toi, par exemple? Parce que toi, tu manges bien, et moi, je suis dans la galère, et il faut que je quitte chez moi avec mes enfants pour venir habiter chez toi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier les efforts. Peut-être te demander un appui pour que je puisse aussi m'en sortir. Donc, et c'est là où je lance l'appel à l'effort. C'est un raisonnement que tout le monde doit avoir, une discussion qu'on doit mener au niveau du pays pour voir dans quelle mesure le jeune qui termine les universités peuvent avoir accès à l'emploi. Parce que il faut pas dire parce que c'est là il y a la pauvreté, je dois aller coûte que coûte à l'étranger, même s'il faut confronter ou avoir à mourir sur le chemin. Parce qu'il y a beaucoup, si on doit prendre les statistiques de 2015, et en 2015, on vient d'enregistrer à travers le monde 1 324 000 migrants à travers le monde. Et de ces chiffres-là, il y a au moins 3 771 morts ou disparus. Vous avez
durant l'année 2015.
Durant l'année 2015, vous avez cité juste à l'introduction de l'émission des gens qui meurent noyés
dans les embarcations,
de fortune. Donc voilà, est-ce qu'il faut aller mourir parce que je dois chercher le mieux-être? Mais aussi, je vais dire beaucoup de ne pas croire que quand on est dans un pays étranger, il y a forcément la solution à tous les problèmes. Nous pouvons voir l'Angola, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud, pour ne pas citer les pays d'Europe, ceux qui sont en Afrique comme nous, avec qui nous partageons certaines réalités. Beaucoup de Congolais qui vont là-bas. Est-ce que tous ces Congolais-là, quand ils reviennent ou quand ils vivent là-bas, est-ce qu'ils ont vraiment des millions de dollars pour venir changer des situations à l'interne? Nous avons vu, nous connaissons aussi beaucoup de cas, des gens qui reviennent de l'Afrique du Sud parce qu'ils n'ont pas pu s'intégrer. Et des gens qui reviennent même de l'Angola parce que maintenant, l'Angola aussi commence à serrer au niveau économique. Et il y a beaucoup qui ne se retrouvent plus, qui reviennent au pays. Donc c'est pour dire que la situation peut, à un moment, nous être défavorable, mais à un moment aussi être défavorable au pays d'accueil. Donc et aller même en Europe, c'est pas tous les Congolais qui réussissent. Je vais vous donner juste des chiffres. Depuis 2004, nous OIM Kinshasa, OIM RDC, nous avons déjà assisté 5623 Congolais qui sont revenus au pays. Donc c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on a été à l'étranger et que c'est la solution à tout. Donc il peut arriver que vous vous retrouvez à l'extérieur, mais vous n'avez pas la chance de vous intégrer.
Et généralement, ceux qui arrivent en Europe par l'immigration clandestine n'ont pas de documents. Ils n'ont peuvent pas travailler.
Ils n'ont pas de documents. J'ai eu à le dire plusieurs fois. Il y en a qui changent d'identité. Vous étiez juriste ici après avoir terminé votre université, mais le souci, le désir d'aller en Europe, ça vous force à changer d'identité. Vous vous retrouvez comme quelqu'un qui n'a jamais étudié et que, même si on doit vous prendre, vous allez faire quel travail? Vous allez exhiber quel document académique? Parce que vous avez changé d'identité. Ici, on vous a connu sous le nom de, par exemple,
Tati Mapuku,
William Lungamba, mais quand vous arrivez là-bas, vous changez,
vous devenez Benoît.
Benoît, et ainsi de suite. Vous avez perdu toute l'identité d'aujourd'hui. Et vous avez une nouvelle identité et qui n'a rien à voir avec votre passé. Donc c'est ça aussi qui pose problème. Il y a beaucoup de cas de Congolais qui reviennent, que nous assistons. Pas plus loin qu'hier, nous avons assisté à un Congolais qui est revenu de plus loin. Si je peux vous citer le pays de la Nouvelle-Guinée, Papouasie. Vous vous imaginez?
Jusqu'à là,
oui, il est parti, il a essayé de s'intégrer, mais quand il a trouvé que ça n'a pas marché, il a pris la décision de revenir. Mais quelqu'un d'autre va lui dire que c'est un fainéant, il ne devait pas revenir. Mais c'est parce qu'il a fait face à la réalité.
Et il semble que certains, par peur d'être attrapés par la police et refoulés, se cachent dans la maison, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas aller travailler.
Oui, parce qu'il n'a pas de papier. Donc la clandestinité la plus totale. Donc Vous n'avez pas de documents, vous ne pouvez pas travailler. Même quand vous tombez malade, ça devient difficile pour vous faire soigner parce que vous n'avez pas d'assurance sociale. Vous ne pouvez pas vous présenter quelque part. Même pour travailler, vous devez soit utiliser une fausse identité pour trouver du travail. Et parfois, c'est du travail au noir. Donc, il y a des sociétés aussi qui enfreignent la loi et qui peuvent accepter d'utiliser les gens qui sont des clandestins et pour le payer. Quel salaire? Parce que vous n'êtes pas répertorié. Vous n'êtes pas reconnu par la loi du pays. Donc, ils vont vous utiliser au noir et ils vont vous payer aussi au noir.
Voilà, on va vous payer au noir. Clémenda est à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du jour.
Quelle est votre Merci. Question, Clément?
Il est vrai que pour les Congolais, la migration clandestine est devenue une monnaie courante. Voilà ce que le pouvoir, je voulais juste demander à notre invité. S'il arrivait que la personne quitte le pays en raison, par exemple, d'argent, il s'est décidé d'aller chercher de l'argent, compte tenu de l'insécurité que nous avons de l'argent ici, et puis pour décider d'aller vivre en Afrique du Sud, soit en Angola et partout ailleurs. Est-ce que pour cette personne, le fait de se déplacer ou sa migration doit constituer pour lui une garantie? Ma première question. Alors, la deuxième des questions, voilà que les gens ne se jouent au Rwanda, que les Congolais ont profité de l'occasion pour aller vivre les ambiances et puis soutenir vraiment l'équipe nationale. Mais s'il arrivait que la personne parmi ceux qui sont partis, il y a l'un qui se décide normalement de rester, soit pour nous amener des coutumes étrangères, soit nous amener d'autres choses qui peuvent normalement nous réjouir. Est-ce que cela peut avoir comme impact sur le plan social? Merci.
Bien, merci Américain.
Oui, j'ai pas bien compris la première question quand il dit quelqu'un se décide d'aller chercher l'argent en Afrique du Sud. Est-ce que le fait de se déplacer peut constituer des droits? Je pense pas, parce que je vais expliquer que lorsque vous voulez faire un mouvement donc migratoire pour quitter un pays X pour aller dans un pays Y, vous devez le faire dans la régularité la plus totale. Donc vous devez obtenir les autorisations d'entrer dans ces pays-là et il y a des critères qu'on impose pour vous accorder un visa. Si vous êtes parti pour chercher l'argent, c'est ça le motif. En tout cas, je pense pas qu'il y ait une seule...
On ne va pas vous accorder les visas pour ça.
On
ne
va pas vous accorder les visas parce qu'il n'y a pas de pays où on distribue l'argent dans les rues. Donc, vous devez avoir une raison valable de votre séjour à l'étranger.
Mais il y a certains qui partent aussi, soit pour des raisons médicales, ou soit pour assister à des conférences, et après la conférence, ou pour des rencontres sportives, comme il a cité les Tchans au Rwanda, après la rencontre, les gens disparaissent.
Oui, c'est ce que j'allais appeler la clandestinité de second degré, ou de deuxième niveau. Parce que vous pouvez être clandestin dès le départ, ou vous vouliez voyager, ou vous êtes en train de voyager sans document, on vous arrête, où on vous trouve en situation de clandestinité, où vous pouvez les devenir. Parce que vous avez été en ordre, vous avez été régulier, avec de bons documents. Et après votre séjour régulier, vous pouvez tomber dans une situation irrégulière. Ça signifie, votre visa est épuisé. Donc, au lieu que vous rentriez dans le pays, vous préférez rester. Au-delà de la date régularité, validité de votre visa, vous devenez irrégulier. Donc, vous devenez clandestin. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de cas des gens qui ont bénéficié de visas en bonne et due forme. Ils sont allés pour les recyclages, ils sont allés pour les séminaires, pour le soin de santé, mais au-delà, ils restent dans les pays étrangers. Avec comme conséquence, si on vous trouve dans cette situation irrégulière, vous serez obligé de rentrer chez vous. On va vous forcer à retourner. Et aussi, la deuxième conséquence, c'est que une fois, après quelques temps, si vous voulez encore demander l'autorisation ou le visa pour aller dans ces pays-là, on ne va pas vous accorder le visa parce que vous en avez abusé précédemment. Donc voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et pour les cas de gens qui vont supporter l'équipe nationale, vous êtes parti, on vous a accordé l'autorisation pour un séjour très court.
Bref, oui.
Donc au-delà de ces séjours-là, vous devez rentrer. Si vous estimez que vous voulez rester dans ces pays-là, il faut voir les autorités du pays pour expliquer la nécessité de la demande ou vous essayez de justifier la prolongation de votre séjour. Donc, au cas contraire, vous serez trouvé dans la situation irrégulière et au sommet de rentrer dans votre pays.
Bien, nous avons en ligne Junior depuis Gbadolité. Bonjour Junior. Junior, bonjour. Il n'est plus en ligne. Alors, quels sont les aujourd'hui, Emery, avec tous ces problèmes que nous sommes en train d'évoquer, il y a même certaines personnes qui se font tromper par des passeurs et se retrouvent, par exemple, au Maroc, et ils sont abandonnés là-bas sans ressources et ils n'ont plus rien. C'est des choses que vous êtes souvent informés de ce genre de situation.
Oui, nous sommes informés. Par exemple, nous avons un programme de retour à partir du Maroc. Je peux dire que si on prend des retours organisés par OIM, c'est le pays qui a le plus grand nombre de gens qui retournent, parce que beaucoup cherchent à aller joindre l'Europe à partir de l'Espagne. Donc ils préfèrent aller par des pays africains, comme on appelle à Lingala Nzela Mukuse, alors qu'ils mettent des années sur ces chemins-là, parce qu'il y en a qui commencent par Brazzaville et ils progressent le Cameroun, ils vont passer de pays en pays pour arriver au Maroc, soit en Libye, et chercher à traverser la mer. Donc beaucoup, quand ils arrivent au Maroc, il y en a qui meurent en chemin.
Parce qu'ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus rien.
Oui, mais il y en a qui meurent parce que parfois ils n'ont pas pu tenir dans les déserts. J'en connais quelque chose parce que j'ai parcouru les déserts. J'ai même passé la nuit parce que vous n'êtes pas obligé d'aller de faire les chemins en une journée. Il faut dormir. C'est vraiment un désert sec et vous ne voyez pas l'horizon. Et quand ils arrivent au Maroc pour traverser, et c'est pas facile. Il y en a qui meurent dans les embarcations. Et ceux qui prennent peur, ils se décident de rentrer. Il y en a qui sont encore téméraires, qui restent et qui cherchent à traverser. Je sais pas, peut-être qu'il aura la chance. Mais pour beaucoup, ils choisissent de rentrer au pays après avoir passé quelques années au Maroc. Donc voilà, c'est des expériences malheureuses, malheureusement. Et des gens qui ont investi beaucoup d'argent. Même quand ils sont au Maroc, il y a des familles qui continuent à leur envoyer d'argent et tout cet argent-là s'envole parce qu'ils ne réussissent pas à partir. Et nous avons même des cas d'enfants qui sont amenés par des personnes, je sais pas, nous espérons que la DGM va encore ouvrir les bancs pour contrôler beaucoup de sorties d'enfants. Et il y a des gens qui abandonnent des enfants au Maroc, par exemple. Des enfants qui ne leur appartiennent pas. Donc, ils sont partis avec les enfants d'autrui comme facilitateurs pour amener l'enfant à son parent qui est en Europe. Mais arrivé au niveau du Maroc, ils abandonnent. C'est le cas aussi en Afrique du Sud où on abandonne des enfants parce que on vous a trouvé avec des enfants qui ne vous reconnaissent pas comme papa et on est obligé de mettre la main sur vous. Donc, voilà. Et ces enfants-là, nous les accueillons au retour dans le pays. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas facile, malgré la crise, malgré toutes les raisons qu'on peut avancer, c'est pas facile actuellement d'aller dans des pays étrangers. Parce que tous les pays ont presque les mêmes difficultés actuellement.
Immigration clandestine, cause et solution. Aimé Minako est à Isiro, Ignace Ndala nous appelle de Kolezi.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Aimé Minako, vous êtes à Isiro, Ignace Ndala de Kolezi. Aimé, bonjour.
Allô, bonjour, c'est Jody. Bonjour à l'invité. Bon début de la semaine à tous.
Merci. Quelle est votre question?
Oui, l'unique question que j'ai par rapport à ce sujet est celle de savoir quelle est la position qui prévoit la loi par rapport à ceux qui partent s'installer à l'étranger d'une manière frauduleuse. Voilà ma question aujourd'hui.
Merci. Ignace Ndala de Colosi, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, je salue aussi l'invité. Je voudrais dire que par rapport à la question, il y a d'abord le grand problème, c'est la recherche, entre guillemets, du mieux-être. Mais je voudrais aussi que l'invité réagisse à mon point de vue. J'ai comme l'impression que les médias ne jouent pas tellement un bon rôle. Parce que chaque fois, on présente l'extérieur, l'Europe, comme étant le paradis. Hein. Or, il y a des gens dans des quartiers d'Afrique du Sud qui sont en train de souffrir, des Congolais qui vivent des cirages de chaussures hein, et autres choses, en Europe qui fabriquent des poupées, qui souffrent réellement. Et même en Europe, il y a des quartiers où il y a la souffrance, mais nos médias ne jouent pas tellement ces rôles. Je pense qu'ils devraient nous montrer exactement les situations pour désillusionner ceux-là qui pensent y aller. Mais il y a aussi notre préoccupation, la procédure d'octroi de visas et passeports dans notre pays. On a l'impression qu'à un certain moment, ça paraissait très très difficile, même aujourd'hui, demander à chacun de nous, vous allez voir qu'il y a des gens jusqu'à ce jour qui ont mis une année pour avoir le visa ou se voir octroyer un passeport. Tout cela fait qu'à un certain moment, les gens sont tentés de chercher le raccourci. Mais je voudrais chuter aussi par demander, cette fois-ci, du point de vue terminologique, quel est le terme ou l'épithète que vous choisissez le mieux ? L'immigration clandestine ou irrégulière ? Je pense bien qu'il y a des nuances. Quel est le terme correct qu'on devrait en principe utiliser ?
Bien, merci. Émeric Anga.
Merci, je vais répondre directement. Je vais commencer par la question de madame ou mademoiselle Aimée de Isiro. Mm-hmm. Par dire que nous, au sens strict, OIM n'est pas un organe de la loi. Et l'OIM, c'est un organisme humanitaire. Et nous assistons les gens quand ils sont dans les besoins. Mais vous devez savoir que quand vous violez une loi, il y a des sanctions qui vous sont réservées. Et quelqu'un qui est trouvé dans une situation irrégulière dans un pays étranger, donc cette personne a un frein à la loi. Donc c'est comme ça que ces pays-là prennent des gens pour les garder dans des centres fermés, par exemple, parce qu'ils ne sont pas trop criminels que les gens qui commettent des pires crimes. Et beaucoup sont obligés de rentrer par force dans leur pays d'origine. Mais en tenant compte des droits de la personne humaine, on accorde toujours le temps à la personne de se décider de rentrer chez lui. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pays qui accordent des possibilités de recours. Et il y a des premiers recours, le deuxième recours, quand vous arrivez à la troisième décision définitive, donc vous n'avez plus droit au recours, vous devez partir. Mmh. Donc ça c'est des questions, s'il y avait quelqu'un de la DGM pouvait bien répondre, qu'est-ce qu'ils en font de ceux qui...
Mais il semble que dès qu'on vous refoule, vous revenez ici à partir de l'aéroport d'Ndjili, on vous prend jusqu'à la prison.
Je ne peux pas affirmer cela parce que nous avons beaucoup de cas. Je vous ai cité les cas de quelqu'un qui est arrivé hier. Et cette personne-là a été accueillie. D'abord assisté par la DGM parce qu'il est arrivé. Nous, on attend après le contrôle de la DGM. Et la DGM, nous travaillons en bonne collaboration.
Mais cette personne-là n'a pas été refoulée. Elle est rentrée d'elle-même.
Oui, elle a choisi l'option du retour volontaire parce que, au pays. Au lieu d'attendre qu'on puisse vous expulser, et il y en a qui opposent aussi la force, et parfois ils sont obligés de venir sous escorte, et là ça fait pas beau quand vous arrivez, et si le pays doit aussi se poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour revenir sous escorte, donc le pays devra chercher à poser des questions. Mais c'est pas notre affaire parce que nous ne savons pas trop ce qui se passe. Et si je dois des concepts irrégularité et clandestinité, c'est presque la même chose parce que un clandestin, c'est celui qui se cache, hein, quelqu'un qui vit dans une situation où il ne veut pas qu'on le voie. Hein. Pourquoi il veut pas qu'on le voie? Parce qu'il est dans une situation irrégulière. C'est ça, donc la clandestinité. C'est la situation de quelqu'un qui est dans un migrant qui n'a pas utilisé de voie régulière pour, par rapport à son séjour ou par rapport à son voyage à l'étranger.
Mais donc, il dit également que si c'est parce que les ambassades ont durci les conditions d'obtention de d'octroi de visa, c'est qui pousse les gens à la clandestinité parce qu'on ne donne plus les visas comme avant.
Je crois que je l'ai dit au début, que je l'ai dit aussi au cours de l'émission, que tous les pays ont des difficultés. Et bien entendu, il y a des pays actuellement qui acceptent de réintégrer ou réinstaller les migrants dans leur, sur leur territoire. Nous prenons les cas de Canada, les cas des États-Unis, qui offrent la possibilité aux gens d'immigrer et d'aller dans leur pays. Mmh. Mais c'est pas tous les pays qui ont cette possibilité-là. Vous prenez le cas de la Belgique, qui a presque 10 millions d'habitants. S'il doit accepter jusqu'à 1 million de Congolais sur son territoire, vous voyez les problèmes auxquels...
Ça va créer les déséquilibres.
Voilà, les déséquilibres. J'ai parlé, le pays ont des soucis d'équilibre, équilibre social, sécuritaire, économique, parce que ces gens-là, s'ils les acceptent, il faudrait que ces gens-là soient aussi dans de bonnes conditions.
Dans de bonnes conditions.
Donc, il faut qu'il y ait des logements supplémentaires pour ces gens qui arrivent. Il faudrait aussi de conditions sociales qui les satisfassent. Donc D'accord. voilà, et le rôle des médias, moi je félicite la radio Okapi qui n'hésite de nous appeler chaque fois pour éclairer et essayer aussi d'informer nos compatriotes.
Mais il y a certains médias qui vous montrent les bannes en poutou, hein. Ils envoient même des photos à leurs membres des familles à côté de la tour Eiffel, à côté des tels bâtiments en Europe, bien habillés, bien sapés. Et ça donne aussi envie aux autres jeunes restés au pays de partir.
Oui, c'est le trompe-l'œil, hein. Donc c'est juste pour faire valoir. Mais quand vous essayez de suivre les prêts, essayez peut-être de demander aux gens qui habitent avec les frères et sœurs de ces gens-là. Mais ils vivent une autre situation. C'est pas parce qu'on a vu votre frère sur une émission de télévision où il s'habille avec des habits qui coûtent 50 000 euros et qu'il les a. Hein, vous savez que il y a eu une certaine époque, où je ne vais pas créer de polémiques, où les gens qui étaient des demandeurs d'asile se faisaient, ils faisaient un peu ce qu'on appelle l'ikilema. Donc, ils se déclarent demandeurs d'asile sous 2, 3, 4 identités différentes. Et ils avaient la possibilité, à la fin de chaque mois, d'avoir des subsides 3 fois, 4 fois, 5 fois. Hein? Et mais quand on a essayé d'informatiser les choses, avoir des bases de données avec des empreintes digitales, et cela ne marche plus.
Ça ne marche plus.
Une fois on vous a enregistré, c'est tout. Quand vous allez avec une deuxième identité, vous mettez vos empreintes, on vous démasque.
Alors pour terminer, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
La solution d'abord, c'est à des niveaux. Il y a au niveau interne, il faudrait que l'État cherche les voies et moyens pour promouvoir le développement et donner des emplois aux jeunes. Ça, c'est le moyen le plus efficace. Mais par rapport à ceux qui veulent voyager, il faudrait qu'ils respectent les critériums imposés par le pays avant de partir. Et si une fois vous avez les visas, il faut pas en abuser. Pourquoi on ne veut plus accorder beaucoup de visas? Parce que ceux qui sont partis dans les mêmes conditions ne veulent pas rentrer. C'est comme ça que parfois ils se disent, l'effet d'entraînement, si Jordi a voyagé, il veut pas rentrer, et Mary, quand il va voyager dans les mêmes conditions, et il risque aussi de ne pas voyager, faire le voyage de retour. Donc voilà, on essaie maintenant des probabilités, essayer de voir est-ce que la structure, par exemple, si c'est une société qui envoie un organisme, est-ce que la structure qui envoie aujourd'hui est compétente, je peux dire crédible, pour qu'on accorde le visa? Mais quand on essaye d'analyser qu'il y a 2, 3 personnes qui sont parties, qui ne sont jamais rentrées, donc on va refuser le visa à la 5e personne. Donc voilà, c'est question que nous respections la loi migratoire.
Merci Emery Kianga, chargé des opérations retour et réintégration à l'OIM. Merci, bonne journée et
c'est
bon début de
semaine. C'est moi qui vous remercie et nous sommes disposés chaque fois que vous ferez appel à nous.